Comme je vais essayer de vous l'expliquer, Pulp, c'est une revue exclusivement dédiée à l'image. Et d'ailleurs, c'est la première revue qui s'occupe des images dans toute nature. Donc, je vais faire une petite présentation de la revue en général et parler plus spécifiquement après du sujet du numéro que nous avons fait sur le thème de la guerre, qui est un thème assez d'actualité à cause des commémorations en ce moment, mais qui est un thème d'actualité constante, hélas. Et c'était intéressant de voir ce que les images avaient raconté là-dessus. Donc, Pulp, c'est une revue qui est toute récente, puisque le premier numéro est sorti en janvier de cette année. Et c'est une revue qui a fait le pari de chaque trimestre autour d'une thématique. Le premier numéro, c'était sur le féminin et le masculin. Le deuxième, donc, sur la guerre. Le prochain sera sur les star systems et les idoles. Et l'idée, c'était de se dire qu'on vit dans un monde où les images sont devenues un vecteur de connaissance essentiel, notamment déjà depuis que les moyens audiovisuels se sont connu leur expansion immense au cours du XXe siècle, mais depuis l'arrivée d'Internet, c'est encore plus vrai, c'est-à-dire que, et notamment pour une jeune génération, c'est pour ça que Pulp peut se lire dès 15-16 ans, une génération qui a un accès très très facile et très aisé à l'image et Internet. Ces images-là sont omniprésentes, en fait. On est assez bombardé d'images constamment. Et notre réflexion, qui était le point de départ de la revue, c'est de se dire qu'il était fort dommage, alors que on apprend assez jeune à lire des textes, à comprendre ce que c'est que le vocabulaire, la conjugaison, la grammaire. On sait lire des textes, mais les images, on dispose de peu de moyens, en fait, on nous apprend très peu à les lire. Alors, l'éducation nationale commence à faire pas mal de boulot de ce côté-là, mais néanmoins, on reste quand même, face aux images, un peu, en général, interdit. C'est-à-dire qu'on les voit, tout le monde pense les comprendre, mais on n'a pas toujours les codes pour analyser ces images, quelle que soit leur nature. Et nous, donc, Pulp, la revue, on s'est dit que ce serait pas mal de s'emparer à un moment donné de tout ce monde d'images qui est le nôtre, de monde d'images qui nous entoure, et d'essayer un peu de prendre le temps de faire un arrêt sur image, comme le dit si bien l'émission du même nom, de faire des arrêts sur image et d'essayer de comprendre un peu ce qu'elles ont à nous raconter. C'est-à-dire que les images ont un grand pouvoir de fascination, elles ont un pouvoir d'immédiateté en général. Il y a des images plus complexes que d'autres, des œuvres d'art ne se lisent pas comme une pub pour Dior par exemple, mais elles ont toutes un vocabulaire, parfois commun, parfois pas commun. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de convoquer autour d'une thématique tous les médiums qui ont l'image pour langage, c'est-à-dire les beaux-arts évidemment, la photographie, le cinéma, mais aussi la pub, la mode, les jeux vidéo. Vraiment tout ce que, parce que puisqu'il y a plein de médias qui ont dont le langage principal est l'image, et nous on s'était dit voilà, qu'est-ce que les images racontent. Alors le premier thème, c'était féminin masculin, c'était un thème, il est venu presque évidemment parce que le féminin et le masculin, c'est le lieu même de la représentation. L'homme, depuis qu'il fait des images, il se représente lui-même, l'homme au sens large du terme, l'être humain, on va dire. Et l'homme et la femme sont des hauts lieux de représentation et aussi de stéréotypes, de clichés. Et nous, ça nous amuse d'essayer de décortiquer un peu ça et d'apprendre, en fait, pas forcément à décrypter parce que, les images, parce que décrypter, ça voudrait dire qu'elles ont un sens secret et que nous, on va le mettre à jour, mais de lire des images, c'est-à-dire de donner au lecteur des images avec un commentaire à chaque fois qui permet de mieux les comprendre et que, mise bout à bout, toutes ces images-là essaye de donner un petit aperçu de la thématique en question, d'en faire le tour. Et le gros avantage de partir des images, c'est que ça nous évite d'avoir des propos tranchés ou doctes. Les images sont toujours ambiguës. Elles sont toujours un premier sens, puis toujours des sens multiples. Et dans Pulp, ce qu'on essaye, c'est nous aussi d'être ambigus. C'est-à-dire qu'on ne dit pas ce que nous, on pense du rapport homme-femme ou de la guerre. Enfin, de la guerre, en plus, je vous dis ça parce que la dernière fois, j'ai fait une conférence sur un public plus jeune que vous, parce que c'était des collégiens. Et au moment des questions, un des collégiens m'a demandé « qu'est-ce que vous pensez de la guerre ?» Alors je lui dis que, bon, à part le dire que c'est mal, il n'y a pas grand-chose à en penser, si ce n'est en philosophie, en sociaux, etc. Mais nous, on s'est dit que Les images, ça permet d'être le point de départ d'une discussion autour d'une thématique qui évite d'être affirmatif, qui pose juste des questions qui sont des questions de l'ordre de l'ambiguïté de la représentation. Pourquoi on décide de montrer ça plutôt qu'autre chose? Qu'est-ce que la pub nous raconte? Quels stéréotypes elle trimballe? Qu'est-ce que les œuvres d'art nous ont dit sur les rapports hommes-femmes, sur les rapports, alors qui sont vraiment en ce moment assez prégnants à cause des problématiques du genre. On voit bien qu'à l'école, ça se frite un peu autour de la notion de genre, faut-il ou pas aborder ça avec des élèves. Ben nous, on essaie de l'aborder par la bande, si je puis dire, grâce aux images. Et Pulp, à chaque fois, convoque et fait se rencontrer les images entre elles de manière un peu parfois. On essaie de provoquer des petits chocs, faire se confronter une pub et une œuvre d'art, faire se confronter une photographie officielle et une photographie anonyme. Parce que, en fait, le point de départ pour nous, c'était que moi, je suis éditeur au départ et éditeur de livres pour enfants. Donc, j'utilise l'image constamment. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est fou d'utiliser à ce point-là les images, que les images soient partout et qu'il n'existe rien, en fait, comme média dont l'image serait le propos. Alors, il y a des magazines spécialisés en cinéma, en photo, mais aucun, en fait, n'aborde la problématique de l'image dans son ensemble. Et moi, ça m'intéresse parce que professionnellement, je m'en sers. En tant qu'être humain, je vois des images constamment. Et une autre raison aussi, c'est que j'utilise beaucoup, beaucoup Internet pour des raisons professionnelles et personnelles aussi. Et sur Internet, excusez-moi, on se rend compte que les images sont toujours omniprésentes, mais surtout, elles sont. Il y a des sites où on voit pêle-mêle une œuvre d'art, une pub, une photo anonyme, une photo célèbre. Et souvent, alors c'est assez fascinant ce foisonnement-là. Moi, je trouve ça génial. Mais si on ne sait pas quelle est la nature des images qu'on voit, on peut juste finalement être perdu et se dire que tout se vaut et qu'une image en vaut une autre. Et puis après, on les oublie, ça défile. Peuple, justement, voulait marquer une pause là-dedans. Et aussi de confronter, comme le fait Internet, bon, avec moins de moyens, puisque on est limité à 128 pages, mais aussi faire se confronter tout type d'images. Mais nous, on essaie de donner des jalons pour les comprendre et montrer pourquoi ces images-là peuvent se mettre en rapport. Donc, une image, les questions qu'on se pose, c'est d'abord qui a produit cette image, pourquoi, comment, dans quel contexte, dans quel but. Ça, c'est le point de départ de Pulp à chaque fois. Et ensuite, on essaye de montrer des éléments qui sont plus de l'ordre de la composition de l'image. Comment une image raconte une histoire? Avec ses moyens à elle, avec son propos, son choix de cadrage, son choix de montrer ça ou de ne pas le montrer. Et ainsi, en déroulant le fil, en mettant des images mises bout à bout, avec toujours un texte qui est assez long quand même, c'est pas du commentaire d'image, c'est des textes, vraiment des articles longs, mais qui sont suffisamment découpés pour qu'on puisse feuilleter un article très rapidement, une double page, deux doubles pages, trois doubles pages maximum. Et on peut s'arrêter là, puis on peut en lire un autre plus tard. Puis une fois qu'on aura fait le tour, on n'aura pas fait le tour de la question, mais on aura commencé à se poser des questions. Et moi, ce que j'aimerais en fait, pour que le lecteur de Pulp ait comme réflexe, c'est s'il a pris du plaisir à lire cette revue, si ça a commencé à l'interroger, c'est qu'ensuite, lorsqu'il se retrouve confronté à une image, quelle qu'elle soit, il commence à se poser des questions. Et plus, pas juste passer devant et se dire, bon, c'est joli ou c'est pas joli, ou alors je m'en fous pas, mais se dire, tiens, mais c'est bizarre, pourquoi on nous montre ça? Pourquoi, là, à tel moment, cette image-là a été présentée soit dans un média télévisuel ou à la pub sur un bus ou n'importe quoi. Avoir une acuité de regard. Parce que je pense que si l'image devient une espèce de langage essentiel, il faut alors que tout le monde puisse commencer à avoir des armes, non pas pour se méfier systématiquement des images, mais pour juste ne pas être la dupe d'un monde d'images qui veut nous faire passer des messages constamment et de façon parfois insidieuse. Alors, Pulp n'est pas du tout une revue de combat qui essaie de dire attention, on nous manipule. C'est juste une revue qui essaie de prendre à bras le corps une problématique qui me paraît fondamentale et qui va l'être de plus en plus. Et s'il n'y a pas d'outils critiques au sens neutre du terme, hein, pas au sens négatif, pour accompagner cette espèce de bouleversement dans lequel on vit, je pense que c'est comme si tout d'un coup on basculait dans un monde de l'écriture sans que personne n'ait appris à lire, alors ça devient compliqué. Et bien pour les images, c'est pareil, et c'est d'autant plus important que, comme je vous le disais au départ, les images sont apparemment simples en général. C'est-à-dire que si On parle ensemble d'une image qu'on a vue, on pense qu'on a tous vu la même chose. A priori, bon, je sais pas, voilà, un oiseau sur une branche, j'en sais rien, n'importe quoi. Mais en fait, on n'a pas vu la même chose, parce qu'on ne l'a pas vu dans le même contexte, et puis ça ne fait pas appel au même ressenti chez chacun, et puis on ne l'a pas forcément compris de la même manière, parce que pour certains, cette image va être juste ce qu'elle représente, pour d'autres, ils vont comprendre que derrière, il y a parfois un message, ou que le sens n'est pas si simple que ce qui n'y paraît au premier abord. Et donc, ça peut paraître. Parce qu'on m'a posé la question, parfois, j'ai fait la dernière fois une rencontre avec des bibliothécaires, et la première question qu'on m'a posée, j'étais assez étonné, et c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment du boulot, c'était mais pourquoi faire une revue sur l'image? Une image, ça va de soi, ça se raconte, il n'y a pas besoin d'en dire, à part la décrire, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Et là, je me dis que si des gens pensent ça, vraiment, il y a du travail, parce qu'une image, ça va jamais de soi. Alors. Je vous ai dit que le premier thème, c'était féminin-masculin, qui nous paraissait une évidence parce que c'était voilà, la représentation des hommes et des femmes est omniprésente depuis que l'homme produit des images. Et on a réfléchi au numéro 2 et très vite, il est apparu que le thème de la guerre pouvait être important. Parce que nous, on choisit nos thèmes en fonction de deux critères évidents qui sont, un, l'intérêt du thème en soi, est-ce que c'est un thème intéressant, est-ce qu'on a quelque chose à dire là-dessus, et deux, est-ce que c'est un terme fécond en termes d'image, est-ce que ce thème a donné lieu à de l'image, parce qu'il y a des thèmes qui nous passionnent mais qui n'ont rien à montrer. Et la guerre, en fait, très vite, en commençant à réfléchir un peu au sommaire, aux idées qu'on pourrait aborder, en faisant surtout le tour des images, parce qu'en fait, Pulp a une façon de fonctionner assez particulière par rapport à d'autres revues, c'est que c'est pas simplement intellectuellement qu'on se pose les questions, c'est que on fait d'abord une collecte d'images qui nous ont marqué. Donc on va, et ça, merci à Internet, je pense qu'il faudrait 6 ans pour faire Pulp avant que si Internet n'existait pas. Là, on peut très vite se faire une petite collection d'images. Et donc on a vraiment une réflexion qui est très pratico-pratique. C'est-à-dire que on intellectualise après coup. D'abord, on commence à entasser des images, des tonnes d'images qui nous choquent, qui nous font rire, qui nous plaisent, qui nous déplaisent. Et au bout d'un moment, très vite, on s'est dit, mais en fait, la guerre, depuis que la guerre existe et depuis que l'homme fait des images, a toujours été représentée. La guerre a besoin d'images. Et l'image a besoin de guerre. J'ai vu pas mal d'interviews de photojournalistes, par exemple, qui expliquaient que leur passion, le métier qui les passionnait, c'est-à-dire être photographe de guerre, c'était aussi parce que, aussi atroce qu'elle soit, la guerre est quand même un théâtre humain incroyable. C'est violent, c'est de l'action, ça peut même parfois être beau, ça peut être très laid. En tout cas, c'est très riche comme matière. Et donc, les images et la guerre sont finalement un très vieux couple. On le voit bien dès lors qu'il s'agissait de représenter des batailles. Les artistes, les peintres ont très vite comme sujet principal, après les sujets religieux, c'est souvent la guerre. Pourquoi? Parce que, un, bon, il y a parfois des œuvres de commande qui sont au service de ce qu'on peut appeler de la propagande, c'est-à-dire au service d'un monarque ou d'un empereur, et que donc. On le représente dans toute sa majesté, type Napoléon sur son cheval cabré qui indique à ses troupes le sens de la bataille. Donc la guerre elle-même, la guerre au sens de l'émanation d'un pouvoir, a toujours eu besoin des images, photos, peintures, souvent dans le sens d'une propagande. Par exemple, on se rend compte, et on en parle à un moment donné dans Pulp sur la guerre, que pendant la guerre 14-18, puisque c'est d'actualité, au début, il y avait des photographes professionnels qui prenaient des photos pas trop des conflits d'ailleurs, des conditions de vie, mais c'était toujours dans un sens qui essayait d'édulcorer la réalité. Et à un moment donné, on a commencé à confier, puisque, et alors là, tout ça va aussi avec l'amélioration de la technique photographique, les appareils photo commencent à devenir un peu plus légers et maniables, on a confié à des soldats des appareils photo pour qu'ils prennent des photos eux-mêmes. Et on s'est rendu compte, et ça c'est, on en parle dans Paul parce que ça montre le pouvoir de l'image, que c'était plus du tout le même visage de la guerre qui était montré. Et un visage beaucoup plus dérangeant, qu'on ne voulait pas forcément voir, avec tout ce que la guerre trimballe d'horreur, etc. C'est-à-dire des corps mutilés, ou alors des photos plus étonnantes, puisque des photos de la vie quotidienne dans les tranchées, photos type photos de vacances, sauf que le lieu de vacances est un peu moins idyllique. Et donc, Pulp, juste en montrant ça, en disant, voilà, à un moment donné, il y a des photos officielles, et puis dès lors qu'on confie à d'autres gens les appareils photo, ils montrent une autre réalité, déjà, ça commence à faire se poser des questions. C'est-à-dire que finalement, c'est la même réalité, mais le fait de choisir de la montrer de telle ou telle manière, ça change la donne. C'est ça le pouvoir de l'image. C'est-à-dire qu'on a souvent, quand on voit des photos, l'impression que est normal, l'impression naturelle, que bah, ce qu'on nous montre, ça a eu lieu. C'est la réalité. Mais non, en fait, jamais. C'est toujours un choix. C'est-à-dire qu'un photographe, quel qu'il soit, ou un cinéaste, et à un moment donné, il filme quelque chose, il choisit de découper dans le réel une petite partie du réel. Ça ne veut pas dire que ce qu'il montre est faux. Ça veut dire que ce n'est qu'un morceau du réel. On peut choisir de décadrer, et souvent c'est ce qui se passe. Là, récemment par exemple, je digresse un peu, mais ça, tout ça a vraiment un lien avec Pulp. Je dis ça parce que là, je suis tombé sur une photo, c'était je crois en février, ça tournait beaucoup sur Internet, on voyait un réfugié, un petit enfant, 4 ans je crois, syrien, réfugié qui franchissait la frontière entre la Jordanie et la Syrie dans un désert. Et ça a été tweeté par un membre du Haut Comité aux réfugiés des Nations Unies. Sauf que la manière dont c'était cadré, on voyait un petit enfant tout seul dans le désert, entouré de 3 membres du HCR. Et donc, tout de suite, comme l'information va vite, grande émotion dans les médias, un enfant de 4 ans tout seul dans le désert a été retrouvé. Et en fait, du coup, celui qui avait envoyé pour la première fois cette photo a renvoyé le lendemain une photo. Mais cette fois-ci avec un plan large où en fait c'était toute une colonne de réfugiés. Et simplement, le garçon il l'avait isolé. Mais quand on voit l'image pour la première fois, on se dit, voilà, ce môme dans le désert, ça se trouve, ça fait des jours qu'il marche tout seul. Donc évidemment, c'est super émouvant. Mais c'est ni faux ni vrai. Parce que de fait, oui, cet enfant était dans le désert. Mais simplement, c'est une question de cadre. Et ça nous intéresse chez Paul. Parce que quand je vous disais qu'on ne cherche pas à dire qu'une image ment, c'est pas qu'elle ment, c'est que c'est qu'un point de vue. C'est toujours un point de vue. Alors ça nous paraît évident, hein, quand c'est une œuvre d'art, on sait bien que c'est un point de vue d'un artiste, mais ça l'est aussi quand c'est une couverture de magazine, ça l'est aussi quand c'est une photo de reportage. Et ça, ce regard-là, ça permet aussi du coup, pas d'avoir de la défiance, mais de se dire, attention, on m'a montré ça, peut-être que je trouve ça intéressant de voir aussi autre chose, un autre point de vue sur ce qui se passe, parce que ça va vite, une image, c'est sidérant. N'importe qui, d'à peu près sensible normalement, voit un enfant de 4 ans seul dans le désert, est ému. Il y a de l'apitoiement, c'est logique. Mais c'est d'ailleurs, c'est le but des images. On voit une colonne de réfugiés, c'est pas moins triste, mais c'est moins dramatique que ce petit môme-là. Donc, dans cas de conflit, la guerre est un peu un lieu extrême à tout point de vue, et donc ça donne des images aussi extrêmes. Je parlais d'images de propagande, et je disais que le pouvoir, enfin, dès lors qu'il fait la guerre, a besoin d'images, et inversement, les images ont besoin de la guerre dans le sens où c'est un formidable sujet à traiter pour les images, pour la photo, pour les artistes, artistes contemporains, pour les peintres. Pour la pub, les images de guerre sont fortes et les images ont besoin de cette puissance-là, souvent. Alors, ce qui est intéressant toujours dans l'idée de confronter cette histoire de réel avec les images, c'est que ce qui nous intéresse vraiment dans Pulp, c'est de montrer, je me répète un peu, mais c'est de montrer que les images ont un réel pouvoir. Et qu'on est tellement habitué à les voir constamment qu'on ne se demande même plus à quel point, on se pose plus la question de savoir si, dans quelle mesure elles ont un impact sur nous. Or, elles en ont un fort, qu'on le veuille ou non. Et comme c'est pas intellectualisé, quand on lit un texte et qu'il nous fait réagir, il y a cette espèce de distance intellectuelle qui fait que on se rend bien compte de l'impact. On peut en discuter. Une image, on va la voir et c'est fugitif, ça passe. Sauf si on en discute tout de suite avec quelqu'un, après on l'oublie, mais en attendant, elle a imprimé des choses dans notre cerveau et une image physique crée des images mentales. Et ces images mentales mises bout à bout créent finalement, à un moment donné, chez nous, des points de vue, des pensées, et que on a peu de maîtrise sur cet apport-là d'informations, en fait. On ne le met pas à distance. Donc l'idée de Pulp, c'est cette mise à distance, en posant des questions à partir de cas. D'images très concrètes. Je vais vous donner un exemple et je vais le décrire. Ça représente un légionnaire français au Mali, lorsque la France est intervenue au Mali pour apporter son soutien au gouvernement contre les rebelles, enfin, oui, les islamistes. Et donc, ça se passe en fait à un moment donné où l'armée française est en pleine intervention et des hélicoptères décollent. Et ça, c'est très important, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, pourquoi cette photo a fait le tour du monde et a fait un buzz pareil, elle a quand même choqué pas mal de gens, c'est qu'en fait, c'est une très belle photo, elle est très réussie dans son genre, elle est super bien cadrée, il y a une espèce d'effet un peu impressionnant comme ça, avec une contre-plongée, on voit le soldat au centre de l'image, Et qu'est-ce qui se passe? Ce soldat a un foulard autour du cou, autour du visage, avec une tête de mort dessus. Et alors, le problème, il y a deux problèmes avec ça, c'est que pris comme ça, il a les bras croisés, il a l'air d'être un peu d'être bravache comme ça, il a l'air de s'exposer un peu en dominateur avec son foulard à tête de mort. L'image est assez belle, elle est très désaturée, les teintes sont assez passées. Et ça fait une esthétique qui est très proche du jeu vidéo en fait. Les jeux vidéo sont de plus en plus réalistes. Et notamment, il y a un jeu qui s'appelle Call of Duty, qui est un jeu qui est vraiment hyper célèbre. Je ne sais plus à quel numéro ils sont de ce jeu-là. Et le héros a ce type d'accoutrement. En fait, il a justement un foulard avec une tête de mort. Donc en fait, ce qui a choqué, c'est de se dire, mais en fait, où on est, quoi? On est dans la réalité, on est dans le jeu vidéo. Et en fait, ce soldat se prend pour un héros de jeu vidéo, et c'est pas sérieux, alors que c'est un soldat, c'est la guerre. Donc ça a un peu étonné les gens, mais en même temps, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on voit bien que l'image, il commence à avoir des confusions entre la réalité et le virtuel. C'est-à-dire qu'on ne sait plus esthétiquement si on est dans un jeu vidéo ou si on est dans la vraie guerre, donc ça a choqué. Et deuxièmement, et là c'est très intéressant aussi, ça a choqué parce qu'il a une tête de mort. Or, toujours les soldats se sont affublés. C'est un peu comme les médecins dans les salles de garde, qui sont confrontés à la mort, ont besoin de faire des choses un peu potaches pour conjurer un peu le sort. Bien, les soldats ont toujours eu des espèces de gris-gris comme ça, des têtes de mort. On voit sur les avions, il y a des têtes de mort dessinées, des colis fichets, des choses qui rappellent que, bah, oui, la guerre, c'est sérieux, c'est pas justement un jeu. On peut mourir, on peut tuer. Et ça, dans les guerres propres d'aujourd'hui, on ne veut plus le voir. On parlait de 14-18, il y avait eu des journées dans les batailles, je sais pas, à Verdun, où il y avait 20 000 morts par jour, 20 000 morts qui mouraient, 20 000 soldats qui mouraient. Aujourd'hui, quand il y a un mort en Afghanistan, c'est un drame national. Mais c'est la guerre, un soldat, c'est fait pour ça, et on ne veut pas le voir. Donc à la fois, il y a une confusion esthétique entre le virtuel et le réel, et en même temps, ça a rappelé aux gens, et ce que parfois aussi les armées ne veulent pas rappeler, c'est que la guerre... Voilà, c'est pas un jeu, c'est fait pour ça. Et que donc un soldat. Et donc en fait, le photographe et le soldat ont dû s'en expliquer. Le photographe lui a dit. Alors après, ça peut paraître un peu de la mauvaise foi que il a juste pris la photo au moment, il n'a pas trop réfléchi et que ça a donné ça, alors qu'elle est super construite et super cadrée. Et le soldat, lui, et ça me paraît plus crédible, a juste dit que les hélicoptères décollaient, donc ça fait soulever de la poussière, donc tous les soldats mettent un foulard devant la bouche pour pas manger de la poussière, et que lui, il a mis ce foulard-là parce qu'il a un foulard à la tête de mort, parce que c'est un soldat. Mais en fait, comme tout le monde s'est ému de cette photo, ça a fait quelque chose de presque inconscient, et une réaction très négative, et ce légionnaire-là a été mis à pied pendant une durée de je ne sais plus combien de temps, quelques semaines, mais enfin, toujours est-il qu'il l'a très mal pris, du coup il a déserté, on l'a retrouvé à braquer une pharmacie avec une Kalachnikov à Marseille, enfin il a un peu pété les plombs pour parler crûment, et donc c'est intéressant, tout ça à cause d'une image, c'est juste une image, mais c'est jamais juste une image, et cet exemple-là que je viens de vous décrire montre bien que c'est pas rien, c'est jamais rien une image. Et qu'en donnant nous les éléments de compréhension, c'est-à-dire pourquoi, dans quel contexte, comment, raconter l'histoire qu'il y a aussi autour de cette image, parce que les images, tout le monde en est responsable, le soldat, il en est responsable, dans la mesure où c'est le but qu'on voit, le photographe est responsable, mais aussi celui qui la diffuse, c'est-à-dire le journal en question qui a acheté l'image, enfin, les journaux qui ont acheté cette image à l'agence France Presse, parce que elle émane de l'agence France Presse, est aussi responsable. Et tout ça, mis bout à bout, ça crée tout d'un coup une polémique, quelque chose d'énorme, qui retombe comme un soufflet après, parce que les images vont vite et qu'on a déjà oublié cette histoire, mais au moment où elle existait, ça a fait un grand bruit. Donc ça nous intéresse à chaque fois d'aborder le sujet comme ça, en prenant des cas concrets, des images très précises qu'on décortique, images de médias, images de pub, images de mode. La mode, oui, parce que le camouflage est devenu un motif omniprésent dans la mode et presque, il a perdu son côté purement guerrier. Ça aussi, c'est intéressant. L'image aussi banalise les choses. On oublie qu'au départ, c'est devenu un motif comme un autre. C'est assez intéressant. Et je vous donne un autre exemple et puis pour vous montrer un peu la manière qu'on a d'aborder les choses. Il s'agit de deux campagnes de recrutement pour l'armée française. L'une présente des soldats en action, des soldats armés de fusils en action. On voit aussi justement un hélicoptère dans le fond. C'est dans un champ de bataille, une petite montagne pas très élevée. On les voit vraiment en action en train de tirer, mais Là encore, on en revient toujours aux jeux vidéo, dans une esthétique très très proche du jeu vidéo. Et il y a aussi des flash codes qu'on peut voir en disant, en gros, c'est engagez-vous, il suffit de passer son portable et on a rendez-vous avec l'armée direct. Donc il y a un côté engagement très simple, très facile avec le numérique. Et surtout, l'image nous ramène à l'univers du jeu vidéo en disant, elle s'adresse vraiment à des jeunes gens, donc par définition. Donc supposé jouer aux jeux vidéo, parce que c'est des jeunes garçons auxquels on s'adresse en plus, c'est que le jeu vidéo est de plus en plus féminin, mais bon, il y a toujours cette idée que les jeux de guerre, c'est masculin. Et donc, en gros, là, on leur dit, engagez-vous, vous allez vivre une aventure, c'est un jeu, il y a des armes de haute technologie, et ce qu'on ne dit pas, évidemment, et c'est normal, parce que si on disait, engagez-vous, vous allez mourir, c'est moins tentant. Là, c'est du coup, c'est cette image-là oblitère complètement la réalité, la finalité même de l'armée. Et nous, dans Pulp, on ne dit pas que c'est mal ou l'armée ou pas. On dit que on parle juste d'image. C'est ce que je voulais dire. Ça nous permet de pas avoir un avis tranché. Nous, on n'a pas d'avis sur l'armée. Nous, par contre, on a un avis sur la manière dont elle communique. Et c'est intéressant. Et l'image d'à côté, alors là, elle s'adresse à des gens plus diplômés, je pense, parce que c'est un recrutement pour l'armée de l'air. Et pour des grades un peu plus haut. Et alors tout d'un coup, là, c'est plus du tout le jeu vidéo, mais c'est un peu la croisière s'amuse. En fait, on voit que dans le casque, c'est un gros plan sur le casque d'un aviateur, dans les lunettes duquel se reflète une qui ressemble plus à une compagnie aérienne finalement. Alors c'est un peu bigarré, il y a tous les sexes, toutes les couleurs, et ça a l'air sympa en fait. Ils sont tous là, il y a un commandant de bord. Et là encore, toujours le même principe, hein, là c'est, vous allez vivre une aventure forte en équipe, voilà, tout ça, mais le substrat, ce que ça sous-tend, qui n'est pas dit, c'est engagez-vous pour ce que l'armée a besoin de faire dans le monde. Et tout ça, voilà, ces deux exemples pour montrer que quand on commence à interroger, à creuser, à interroger une image, tout un tas de trucs qui apparaissent, de l'inconscient, parce que dans la communication, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est important de savoir lire une image, parce que ceux qui les produisent, en tout cas quand il s'agit d'être de pub ou de communication, ceux qui la font, eux, savent très bien ce qu'ils font, ils connaissent les codes, donc ils les emploient. Donc c'est intéressant d'être sur un pied d'égalité, parce que sinon ça va pas. Et toujours est-il que ça révèle pas mal de choses aussi de notre monde. Qu'est-ce que notre monde montre comme image? Pour reprendre aussi une image emblématique, et celle-là, alors là, je pense que tout le monde la connaît, parce que là encore, on l'a commémoré, c'est l'image de l'étudiant chinois placé en Tiananmen devant les tanks. Cette image où il est seul devant une colonne de chars qui, pour ne pas l'écrabouiller devant les caméras parce que c'était filmé, est obligé de s'arrêter ou de le contourner. Alors cette image, on comprend bien pourquoi elle a fait le tour du monde, elle est super forte, un homme seul face à une colonne de chars, l'image même de la rébellion, de la révolte, désespérée, puisque que peut faire un étudiant face à une armée. C'est une image emblématique, à tel point que moi j'étais en Chine assez récemment. Et ce qui est génial, c'est que une semaine après, je rencontrais des scolaires français cette fois-ci à Saint-Malo. J'ai demandé aux collégiens s'ils connaissaient cette image. Beaucoup la connaissaient, ce qui est rare parce que des images un peu anciennes, ça passe tellement vite. Mais celle-ci, quand même, ils l'avaient vue. Et je leur expliquais que ceux qui ne connaissaient pas cette image, c'était les enfants chinois, les jeunes chinois. Eux, non, parce qu'en fait. Cette image-là, elle est interdite en Chine. Mais non seulement l'image est interdite, mais la mention même de cet événement-là est interdite, tant et si bien que, comme l'événement a eu lieu le 4 juin, et que sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est interdit de parler même le mot 4 juin, enfin l'ensemble de mots 4 juin est interdit, les Chinois appellent ça le 35 mai, pour contourner le truc, ce que je trouve assez marrant. Et ce que j'expliquais, c'est que c'est quand même incroyable. Le pouvoir de l'image est tel que un gouvernement aussi puissant que le gouvernement chinois en a peur. C'est quand même dingue. Enfin, moi, je trouve ça. Il pourrait se dire, bon, voilà, ça passera. Et d'ailleurs, c'est un calcul à court terme parce que interdire quelque chose, c'est forcément lui donner une immense puissance. Et du coup, ce qu'on montrait dans Pulp, c'est que comme toute image devenue mythique, eh ben elle fait l'objet de détournements. On la retrouve dans les Simpsons. Là, les chats remplacés par des espèces de canaris. En Lego. Enfin, il y a des images qui deviennent des icônes, au point qu'elles sont mondialement connues et, encore grâce à Internet, constamment détournées. Donc voilà en gros l'approche de Pulp qui est de faire parler les images, de les faire parler entre elles et de montrer qu'elles ont toujours, toujours quelque chose à nous dire. et qui, voilà, qu'il est intéressant de s'interroger, de mieux comprendre, et de se faire une petite, même une grande, c'est important, je pense, une grande culture visuelle, pour mieux comprendre ce monde. Et Pulp essaie d'y contribuer à sa manière. Et trimestriellement, comme ça, on va essayer d'aborder des grandes questions, parfois très concrètes, comme le phénomène de stars et des idoles et des icônes, qui est fondamental et où il y a vraiment plein d'images. Et puis, pour le quatrième numéro, on va aborder un thème un peu plus abstrait, mais qui nous intéresse, qui est sur les utopies, les mondes rêvés, où là aussi, il y a pas mal de choses. Ce sera un numéro un peu plus poétique, moins photo, journalisme, peut-être plus d'art. Enfin, il y aura peut-être aussi de l'architecture, parce que dans les mondes rêvés, l'architecture a contribué. Enfin voilà, donc l'idée, c'est de prendre, de nous interroger sur ce monde-là par les images, au moyen des images, en essayant toujours de tirer la substance de ce qu'elles ont à nous raconter, et en essayant de faire en sorte aussi, ça paraît une évidence, mais ça l'est encore plus quand il s'agit d'une revue d'images, on a essayé de faire en sorte que l'objet soit beau aussi, c'est-à-dire que, bah, évidemment bien imprimé, agréable à feuilleter, foisonnant, et avec une grosse importance donnée à la mise en page, à la maquette. On a fait appel à des gens que moi je connais bien, qui sont par ailleurs aussi artistes, illustrateurs et graphistes, et qui à chaque fois font un énorme effort pour jouer sur les titres, la mise en page, pour magnifier ces images. Parce que on veut aussi montrer que, on voulait que, montrant des images, elles soient dans un petit écran ou une jolie mise en scène. Ça nous paraissait fondamental, pour mieux les mettre en avant et mieux les comprendre aussi. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Voilà, c'est une présentation assez globale, mais sur un sujet qui me tient énormément à cœur, là.